Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je vais le présenter, c'est Arnaud Berdelet qui va présenter l'émission avec moi. Salut Arnaud.
Salut Raph, merci, bonjour à tous, merci encore à Raph de m'accueillir dans Poulain Rafute. Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture ou même dans le métro, enfin bref, partout où vous en avez envie. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain, même si ça ne flatte pas son ego, ça remplira son frigo. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité quand même prestigieux au regard de sa carrière longue comme mon bras et même un peu plus longue.
Oui, il y a des personnes dans ma vie, tu sais Arnaud, qui m'ont inspiré et avec qui j'aime échanger sur des sujets qui peuvent paraître parfois inaccessibles. Des discussions sur la vie, nos échecs, nos doutes, nos espoirs, la paternité, notre rôle dans la société en tant qu'homme, en tant que rugbyman, en tant que jeune père et en tant que mari. Un exemple, Richard Esco, grand journaliste à l'équipe, passionné de rugby et de beaux mots, qui m'a fait découvrir la philosophie et que je pourrais écouter pendant des heures me parler de la vie. Jean-Pierre Rive, qui m'a permis de faire le deuil du rugbyman professionnel que j'étais à seulement 25 ans et qui m'a offert l'accès à ma sensibilité à travers l'art grâce à ses mots, son regard bienveillant et son humour. Rares sont ceux avec qui je peux échanger et voyager en profondeur dans des réflexions, des questionnements sur l'existence. Parler de vulnérabilité à cœur ouvert, parler avec passion des mots et de leur sens, parler avec pudeur d'amour du prochain, sans le côté pompeux et religieux, et avec bienveillance, et sans rien attendre de l'autre qu'un silence qui écoute et un mot bien placé, comme une action collective où tu trouves l'autre les yeux fermés, comme une passe fluide, bref, comme une amitié. C'est aussi pour ça que le rugby me manque, cette authenticité dans l'échange. Eh bien, je le trouve de temps en temps avec notre invité. Originaire de Brive, passé par le PUC puis Gloucester avant de poser ses valises dans le Pays Basque, Dimitri Yachvili, dit le Yach, est une légende vivante de notre sport. Je pourrais vous sortir sa fiche Wikipédia avec son palmarès, mais il est bien plus que ça. Il est bien plus que son challenge européen gagné avec Biarritz en 2012 et ses deux boucliers avec le BO en 2005 et 2006. Il est bien plus que son titre de champion avec Gloucester ou ses 4 tournois remportés avec l'équipe de France, dont 2 grands chelems entre 2002 et 2012. Il est bien plus que ses 61 sélections, ses essais contre l'Angleterre et ses 373 points avec l'équipe de France. Dimitri, c'est une histoire forte, c'est une fratrie. Ce sont des origines mêlées entre la Géorgie, la Grèce, l'Arménie et la France. Le Yash, c'est un type attachant, à l'allure posée et pourtant. C'est un homme tout aussi mystérieux que passionnant et aussi le parrain de l'association Courir, l'association pour les familles d'enfants atteints d'arthrite chronique juvénile. Bref, ça va au-delà du rugby et même s'il nous régale de ses commentaires chaque week-end de Coupe d'Europe et de tournois destination sur les antennes de France 2, accompagné bien sûr de ce bon Mathieu Lartaud et de Cécile Gray, il reste surtout pour moi ce mec avec qui j'ai joué en 2001 une Coupe du Monde avec une équipe de malades. Et il reste ce type spécial, un peu inaccessible en apparence, mais généreux comme un Corse quand il t'a à la bonne. Et malgré la distance, le temps et nos différences, il est surtout une personne inspirante pour moi et que je suis ravi sincèrement d'avoir comme invité dans Poulain Rafute. Salut Dimitri.
Salut Raph et merci. Merci beaucoup pour l'accueil.
Écoute, de rien, je suis ravi de t'avoir. Ça fait quelques mois qu'on en parle justement de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger sur le rugby et au-delà. Donc ma première question, tu es rentré de Dublin hier, lundi, et où tu avais commenté la victoire du 15 de France face à l'Irlande. Raconte-moi un peu ton plaisir de voir l'équipe de France aujourd'hui remporter et ce match là-bas. Et surtout, voilà, ben, ça fait 9 victoires de rang. Toi, la dernière fois que l'équipe de France avait gagné, tu faisais partie de l'équipe, justement, en Irlande. C'était il y a 10 ans. Donc, c'est quoi ton ressenti ce week-end au-delà du commentateur et en tant qu'ancien rugbyman et en tant qu'ancien de l'équipe de France?
Ben, mon ressenti, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Hein. On a connu des années vraiment difficiles là, depuis 7, 8, 9 ans avec ces fameuses défaites encourageantes. Là, c'est des victoires qui sont encourageantes. On retrouve une forme d'état d'esprit, d'appartenance au maillot, de fierté. Et puis surtout, ça, la gagne, parce qu'à ce jeu, il n'y a que la gagne qui compte. En France, on critique beaucoup les défaites, on critique beaucoup les victoires, mais quand on est passé sur le terrain, tu sais ce que c'est, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le rectangle vert et la victoire. Donc, ça me procure beaucoup de plaisir. Et puis, ça, voilà, ça fait effet boule de neige. Hein. Le monde amateur est en sommeil actuellement. Et voir l'équipe de France gagner, ben, ça rebooste un petit peu tout le monde. Ça rebooste les médias. À nous aussi, bien évidemment, on en profite. Les audiences explosent. Et puis, on prend plaisir. Quoi. On prend plaisir à voir cette équipe œuvrer sur le terrain et gagner.
Justement, Dimitri, Raph le soulignait, la dernière fois que l'équipe de France avait gagné en Irlande, c'était en 2011, tu y étais. Et moi, ma question, elle est plutôt sur ton ressenti, justement. 2011, tu t'approchais de la fin de ta carrière internationale. Est-ce que tu avais senti que derrière votre génération, qui avait quand même un peu tout gagné, malheureusement, sans cette finale de Coupe du Monde en 2011, mais est-ce que tu avais senti qu'il y avait déjà un vide qui allait se creuser derrière votre génération ?
Non, pas du tout. Pas du tout ça, ce genre de choses, tu ne le ressens pas. Bon, on est quand même un pays où on a beaucoup de licenciés. Alors, est-ce que c'était un manque de compétences de la part des staffs ou du système de jeu mis en place à l'époque ou les guerres extra-sportives qui mettaient en péril ensuite la qualité et les performances des joueurs sur le terrain? Mais non, quand tu arrêtes, tu te dis pas que tu es intouchable et que la suite va être plus difficile. Tu espères, bien entendu, que ça perdure, que ça continue. Malheureusement, depuis 2011-2012, et ben voilà, on a connu un creux, comme beaucoup de nations ont connu. Il me semble que nous, on l'a connu un peu plus, la période est un peu plus longue, un peu plus périlleuse, mais bon, ça fait partie du sport et c'est pour ça que je suis encore plus fier et heureux qu'on remonte la pente. Quoi.
Alors, avant de parler de cette nouvelle génération, moi, je voulais juste faire une parenthèse, parce que c'est vrai que tu es fin analyste, quand même, ça fait quelques années maintenant que tu commentes, et sur beIN, et maintenant sur France Télé. Cette génération, après la tienne, après la nôtre, comment tu expliques justement ce creux qui a duré un peu longtemps? Tu l'as dit, est-ce que c'est de la responsabilité du staff? Est-ce que ce n'est pas cette guerre entre la Ligue et la Fédé, la montée des gifles, la montée aussi de beaucoup internationaux étrangers qui ont fait fleurir un peu ce top 14? Est-ce que c'est aussi, ce que tu l'as connu aussi, ces calendriers à rallonge entre la Coupe d'Europe, le championnat, et quand tu es international, tu as vite fait de faire 35 matchs, des joueurs qu'on prend, le joueur en forme en fait, du moment, qui amène à avoir 10, 15 charnières différentes. Et tu le sais, pour gagner, il faut obligatoirement une régularité, c'est-à-dire de mettre les mecs à leur poste, de les installer. Il y a une génération qui est un peu passée à travers, mais voilà, je pense que la responsabilité, elle est partagée, non ?
Ben, elle est partagée et ça s'est confirmé au mois de novembre quand tu vois que l'équipe alignée à Twickenham a failli battre les vice-champions du monde, et ce n'était pas il y a des années. Hein. C'était un an avant cet Angleterre-France en finale de l'Autumn's Cup. On réussit à rivaliser avec des joueurs néophytes, des joueurs qui n'avaient pas connu le niveau international et pour certains ont connu juste 5 ou 6 titularisations en top 14 et que tu arrives à rivaliser avec les vice-champions du monde. Tu te dis que l'après 2011, ben, il a manqué quelque chose. Forcément, il a manqué quelque chose parce que les joueurs étaient quand même expérimentés sur le terrain. Ils avaient gardé une ossature de 2011 pour aller jusqu'à 2015 et cette Coupe du Monde catastrophique en 2015. Donc, forcé de constater que le staff y est beaucoup, un staff de qualité aussi professionnel qui connaît le très haut niveau, ça y fait beaucoup. Se recentrer sur des choses simples, hein. Fabien, son staff, on a parlé d'entrée, c'est l'honneur, le maillot, la victoire, la fierté, toutes ces valeurs-là, toutes ces vertus-là qui avaient été un peu mises de côté. Donc l'édifice est plus solide, quoi. Ça semble plus solide.
Qu'est-ce qui te plaît dans cette nouvelle génération? Cette génération, moi, elle me fait penser à notre génération. Alors, je n'ai pas joué en équipe de France, mais la tienne avec Imanol, avec Titi Dussautoir, tous ces mecs qui ont vécu aussi la fin de l'ère Raphaël Ibanez, et vous avez réussi à prendre le pouvoir. On a la sensation justement que cette génération aujourd'hui, elle est en train de prendre le pouvoir. Elle est responsabilisée, comme tu l'as dit aussi, par le staff avec des nouveaux leaders. Qu'est-ce qui te plaît justement dans tout cet amalgame en fait entre, tu l'as dit, le travail du staff, cette nouvelle génération, et puis une concurrence assez saine où avant on avait un vivier, mais on ne sentait pas justement ce vivier avec cette concurrence où à des postes, tu as un choix qui est absolument hallucinant aujourd'hui. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette équipe et tout ce qui est en train de se passer pour cette équipe de France?
Ce qui me plaît, ce qui s'en dégage, c'est qu'ils ne supportent pas la défaite et qu'ils rentrent sur le terrain pour gagner. Alors, c'est des choses simples à dire, mais tellement difficiles à mettre en place. Les joueurs sont ambitieux, les joueurs ont l'air humbles. Cette nouvelle génération a l'air d'aimer le travail et le travail en profondeur aussi, parce que travailler, tous les joueurs travaillent, toutes les nations travaillent, tous les clubs travaillent. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met dedans? Aller chercher les curseurs au plus haut, ne pas se contenter d'être bon, mais d'être très bon, d'être au-dessus des autres. Pour l'instant, on n'a rien révolutionné, hein. Attention, on s'est juste remis au niveau. Le niveau qu'on a perdu il y a quelques saisons s'est remis au niveau et il fallait forcément passer par là. Mais pour répondre à ta question, l'état d'esprit, l'humilité, cet esprit d'équipe, parce qu'on fait front maintenant, il y a plus, ce ne sont plus des individualités, mais c'est réellement un collectif. Tu changes 5, 6, 7 ou 15 joueurs sur le terrain, ça ne change rien, l'état d'esprit, et ça, c'est remarquable.
Dimitri et Fabien Galthié répètent sans cesse que pour engranger de l'expérience, il faut remplir les trophées, l'armoire à trophées du 15 de France. Est-ce que tu crois qu'elle est capable, dès cette année, d'aller chercher un titre dans le tournoi, d'aller chercher éventuellement un grand chelem? Il y aura probablement un match très important en Angleterre, même s'il ne faut pas, attention, galvauder ni l'Écosse ni le Pays de Galles à domicile. Mais est-ce que tu la crois capable, en si peu de temps, déjà de se construire un palmarès?
Avant le match de l'Irlande, j'en étais pas sûr, parce que bon, on a joué quand même, il faut le dire, une équipe faible en Italie, jeune en reconstruction, et j'attendais de voir la confirmation en Irlande. On a quand même pas mal de certitudes avec ce match en Irlande. Alors, je lis certains commentaires où ça n'a pas été flamboyant, où on a subi en première mi-temps, mais il n'y a pas de victoire facile en Irlande. D'un point, de deux points, ça reste une victoire. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas gagné, ce n'est pas pour rien. Donc, oui, je pense que cette équipe est partie maintenant pour gagner le tournoi. Gagner le tournoi ou faire le grand chelem. Après, l'Angleterre, ce sera une autre histoire, ce sera un autre match. Ils ont perdu déjà à domicile à Twickenham, et c'est rare qu'ils perdent deux fois d'affilée lors d'un tournoi. On n'a jamais gagné le tournoi destination lors d'une année impaire, il faut le savoir. La dernière fois, c'était, je crois que c'était en 1999, mais l'Italie n'était pas toujours là, ça a confirmé. Donc, c'est extrêmement difficile, compliqué. Le huis clos, je pense que ça favorise quand même les victoires à l'extérieur, hein, parce que pour être au stade le week-end dernier en Irlande, l'entrée des joueurs, les hymnes, ben, tu gardes quand même pas mal d'influx nerveux, tu laisses pas du gaz avec cet aspect émotionnel. Donc ouais, c'est cette année, c'est la bonne, on va dire.
Ouais, ça ferait du bien. Puis d'un autre côté, ça fait Fabien Galthié, déjà, ça fait un an et demi qu'il est dans le staff. Ça fait 2 ans presque maintenant, parce qu'il était dans le staff de l'équipe de France qui est partie en Coupe du Monde en 2019. Donc, ça fait pas 6 mois qu'il a pris les choses en main. Ça fait maintenant un an et demi, et ce serait bien aussi de confirmer ces 9 victoires de 2020 et ce beau début en 2021. Mais on va parler un petit peu de toi. Tu as arrêté ta carrière en 2014 sur une relégation malheureuse avec le Biarritz Olympique. Comment tu as vécu cette période à la fois? Enfin, moi, je te voyais jouer jusqu'à... Ouais, je pense que beaucoup te voyaient jouer jusqu'à 36, 37 ans. Tu arrêtes à ce moment-là, tu as 33 ans, je pense. Tu es de septembre, si je ne m'abuse. Mais ouais, tu arrêtes ta carrière, tu as 33 ans, relégué, mauvaise relégation. Comment tu as vécu cette période à la fois d'arrêt de carrière et aussi de voir le club dans lequel tu as évolué pendant plus de 10 ans être relégué?
Bah, tu parlais de religion tout à l'heure, 33 ans, c'est l'âge du Christ, non? Donc il fallait s'arrêter à tout prix.
La symbolique, je sais que tu l'aimes, la symbolique, je l'aime bien aussi. Ouais.
Comment te dire? Oui, ça paraissait un peu étrange, cet arrêt de carrière, mais après, personne ne peut ressentir ce qu'on vit intérieurement. Les gens voient 80 minutes tous les week-ends, les matchs à la télé, mais il y a 6 jours qui se passent. Juste avant, et beaucoup de sacrifices physiques, mentaux, émotionnels, familiales, etc. Et quand tu fais la balance entre le plus et le moins, ben, moi, c'était logique et normal, en écoutant mon corps, qu'il fallait arrêter cette carrière. Je ne l'ai jamais regretté depuis 7 ans maintenant, enfin presque 7 ans, ça fera 7 ans au mois d'avril. Donc, je me dis que j'ai pris la bonne décision. Je fais la transition en commentant les matchs. Donc, ça me permet aussi de rester dans le milieu, dans le système. La visibilité aussi, parce qu'on a beau dire que la visibilité, on peut s'en passer. Mais non, il ne faut pas se la faire à l'envers non plus. Moi, ça me permet aussi de rester voilà, au contact de ce sport qui reste quand même ma passion et qui la restera toute ma vie. Donc voilà, c'était vraiment une prise de conscience que voilà, j'en avais assez. Physiquement, si c'était dur, j'avais un genou qui tirait de plus en plus et je ne me revoyais pas reprendre les outils et repartir sur le chantier, quoi.
Dimitri, on parle souvent de la petite mort du sportif. Alors, on sait que tu avais quand même déjà bien anticipé, puisque encore en activité, tu avais commencé à commenter hein, sur beIN Sport avec notre ami Rodolphe Pires, qu'on salue au passage parce qu'on se marrait bien à vous écouter quand même, il faut le dire. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, cette petite mort du sportif?
Bien sûr.
Tu l'as pris en pleine gueule, de façon un peu grossière?
Ah ben, tu l'as pris en pleine gueule. Alors moi, comme je te disais, j'ai pris ma décision, ça venait de moi, parce qu'il me restait même une année de contrat, donc je l'ai prise de ma propre décision, mais forcément, elle n'est pas petite, hein. C'est une mort, hein. C'est une mort intérieure, ce manque d'adrénaline que tu as tous les week-ends, ces shots d'adrénaline que tu ne connais plus dans ta vie de tous les jours, à part quand tu connais le bonheur de la paternité, tu ressens des émotions profondes, mais ce que tu vis sur un terrain, tu ne peux pas le vivre dans ta vie de tous les jours. Donc forcément, la petite mort, elle était présente, l'esprit d'équipe, se retrouver dans le vestiaire tous les jours, la déconnade au quotidien avec les copains. Nous, en plus, on vivait quelque chose de fort parce qu'on a vécu 10 années ensemble ou 12 pour certains dans le même club. Donc, c'est très fraternel, très familial. À un moment donné, tout ça s'arrête, quoi. Donc forcément, il y a cette reconstruction, cette renaissance. Mais d'abord, il faut accepter que ben, ta carrière s'arrête. Donc, ça veut dire que la reconstruction est primordiale à ce moment-là.
Oui, on a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler lors du départ précipité de Domi. Voilà, il y a quelques mois maintenant, je me souviens d'une grosse discussion qu'on avait eue avec Dimitri avant d'aller voir Christophe, justement, avec quelques anciens. Et c'est vrai que c'est un sujet, bon, vous le savez, moi, qui me tient vraiment à cœur. Et je pense qu'il y a des actions, et on en a parlé avec Dimitri, des actions à mener sur la prévention, sur justement parler de cette fameuse petite mort où il y a une reconstruction à la fois physique, mentale. Et quand je dis spirituelle, ça n'a rien à voir, une fois de plus, avec le côté religieux, mais de retrouver sa place aussi en tant qu'homme dans la société. C'est pour ça que j'ai dressé un peu un portrait un peu spécial de Dimitri. C'est nos échanges qu'on peut avoir, c'est savoir un peu ce qu'on veut laisser aussi, la transmission qu'on veut laisser aussi à cette nouvelle génération qui arrive, qui est hyper professionnelle, et aussi de les préparer. Même notre génération, il y a encore quelques mecs qui jouent de notre génération, c'est de les préparer justement à cet après pour pouvoir atténuer, je dirais, cette petite mort, cette forme de toute puissance qu'on peut avoir sur le terrain. C'est voilà, il faut arriver à accepter ce deuil, accepter aussi la faille, la vulnérabilité aussi, de dire que ça ne va pas. Et je pense qu'en montrant justement, et par ton témoignage, et comme tu le dis là, en montrant qu'un Dimitri Ajvali, un Raph Poulain ou même d'autres joueurs emblématiques de ces clubs puissent prendre la parole en parlant un petit peu des failles qui existent après carrière, ben, ça humanise un peu notre sport, ça humanise un peu nos
parcours. Ouais. J'aimerais rebondir par rapport à ça, et là je vais apporter le regard que tu n'as pas forcément sur Dimitri, puisqu'on n'avait pas les mêmes liens. Moi, j'avais le regard du journaliste. Dimitri, dis-moi ce que tu en penses, mais tu donnes l'impression, comme tu l'étais dans ton jeu finalement, de quelqu'un de très structuré où tout est calculé, anticipé, préparé, et finalement tu racontes que malgré ça, cette période d'après-carrière, en tout cas les premiers temps, ont été très difficiles à vivre. Et du coup, c'est très surprenant parce que tu dégages cette... une espèce de force tranquille. C'est vrai que pour te voir agacé, c'est quand même plutôt rare. Sur un terrain, j'ai rarement vu un Yachvili dégoupiller. J'ai toujours vu un Yachvili... Bon, alors, j'ai peut-être pas vu tous tes matchs, mais...
À part contre le stade.
Ouais, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, c'est vrai que c'est surprenant pour les gens qui te connaissent peut-être moins bien.
Ben parce qu'il y a le masque. C'est-à-dire quand t'es en pleine carrière, tu mets ton masque. Moi... en plus, en tant que buteur, je pouvais pas. Disons que j'ai dû me couper de mes émotions. Hein. Il fallait rester froid, il fallait pas ressentir de peur, de gêne. Tu sais, quand t'es face au ballon, le dernier coup de pied dans les derniers instants qui peut faire gagner ou faire perdre ton équipe, ta ville ou ton pays, émotionnellement, ce sont des charges qui sont très très difficiles à accepter. C'est pour ça qu'il fallait créer une sorte de bulle pour que tout rebondisse, parce que si à ce moment-là tu as l'empathie de ressentir ne serait-ce qu'un regard de ton coéquipier, il n'y avait même pas besoin de parler, en disant putain, il faut que tu la mettes celle-là, parce que plus le public y a dans les stades, plus les téléspectateurs, tu ressens beaucoup beaucoup de pression et le sac à dos émotionnel est encore plus lourd. Donc, si à ce moment-là, j'étais proche de mes émotions, j'aurais tapé un coup de pied de 10 mètres et je n'aurais pas pu frapper pleinement. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, mais une fois que la carrière est finie, ce côté un peu psychorigide, carré, mais il a fallu l'arrondir un peu plus, laisser place un peu plus à… bah, l'irrationnel, hein, ce qu'on laisse venir de la vie, tu ne peux pas tout maîtriser, c'est impossible, c'est juste impossible. Tu peux pendant ta carrière, et encore parfois, le ballon est ovale, on l'a vu le week-end dernier encore, parfois tu as un mauvais rebond, donc là aussi il y a la part de chance. Donc il a fallu déstructurer tout ça, c'est un travail de toute une vie, hein, de toute façon, c'est très bien. Pendant 15 ans, c'est une pause. Juste extraordinaire qu'on a vécu, des shots d'adrénaline qu'on a vécu qui sont juste magnifiques à vivre. Mais derrière tout cela, il y a des sacrifices avec sa famille, avec ses proches, avec toute la vie qu'on peut vivre dans la vie normale. Et la restructuration, la reconstruction passe aussi par, il faut enlever le masque, essayer de se connaître un peu plus. Déjà, si on peut le faire pendant sa carrière, c'est bien, mais le faire après, la chute est moins lourde en manière.
Tu partages ça un peu, Raph ?
Oui, je le partage, mais une fois de plus, c'est les échanges que j'ai avec Dimitri depuis quelques années maintenant, et c'est pour ça que je parlais de philosophie aussi, de psychologie. C'est à un moment où il faut faire tomber le masque, mais c'est le parcours de tout être humain et de tout homme, en fait. Sauf que ce moment-là, en fait, tu le vis presque à la quarantaine, le moment où le masque tombe, où tu es dans l'inconscience, et d'un coup, tu te retournes, tu te dis « putain, mais j'ai vécu tout ça ». Nous, on le vit à 33, 34, 35 ans, c'est-à-dire à un moment de vie où, en plus, notre génération, la génération des 34, 35 ans, est en pleine ascension. Et nous, en fait, le corps s'arrête, donc il faut se reconstruire avec l'image que les spectateurs, en tout cas que ta femme, que tes gosses, si t'en as, et que les téléspectateurs te voient comme un homme entier, parce que tu représentes aussi une réussite, sauf que tu t'arrêtes, donc ça veut dire accepter aussi l'échec d'un corps qui aussi est un petit peu fatigué, alors que normalement, tu es en pleine puissance et en pleine explosion. Donc, faire le deuil de ça et ensuite te reconstruire. Surtout dans une société, je vais aller très très loin, mais dans une société où on ne parle pas de psychologie, on ne parle pas de sensibilité, on ne parle pas de vulnérabilité. Un homme, ça doit être grand, ça doit être fort. Donc, tu as représenté ça pendant 15 ans en carrière, et du jour au lendemain, il faut que tu aies cette transition comme… Certains la vivent. Moi, je sais Pierrot Rabadan qui a eu cette transition assez facile sur cette fin de carrière qui l'amène à son travail à la mairie de Paris. Il y en a d'autres d'exemples où tout se passe bien. Mais pour beaucoup, justement, c'est une reconstruction dans le regard des autres aussi. Dimitri disait, il y a les médias, mais il y a comment tu te reconstruis aussi à travers ton miroir et qui tu es en tant que père, en tant qu'homme, en tant que mari. Donc, bien sûr que je partage ça aujourd'hui. Ouais.
Alors justement, ouais, on parle beaucoup de reconstruction. Pardon, Dimitri, tu voulais ajouter quelque chose peut-être.
Ouais, je voulais rajouter aussi que toutes nos peurs, nos craintes et ce côté émotionnel un peu laissé de côté pendant notre carrière, il peut s'exprimer physiquement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on peut aller plaquer, on peut taper, on peut être agressif et lâcher toute cette colère que dans l'après-carrière, c'est très difficile. À part si tu te mets à la boxe, à part si tu te mets à des sports extrêmes comme l'Ironman ou des choses comme ça où tu peux.
Petit message pour Jérôme Thion.
Ouais, mais c'est aussi pour se guérir de tout ce qu'on a à l'intérieur et qu'on peut plus exprimer alors qu'on le faisait sur le terrain pendant des années. Cette énergie physique qu'on déployait, qu'on dégueulait entre guillemets, ben on peut plus le faire après notre carrière, quoi.
Alors justement, là, on parle beaucoup de reconstruction. On va parler aussi de ta construction, Dimitri, parce que tu as eu un parcours un peu atypique, hein, formé à Brive. Tu fais le choix de partir jouer en Fédéral 1 au PUC. L'année suivante, tu te retrouves à Gloucester avec qui tu étais champion d'Angleterre sous la houlette d'une charnière à l'époque, je crois, Pichotte contre Tepomis, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était voulu ? Est-ce que c'était préparé ? C'était dans ta construction ? Ou est-ce que finalement, c'était le fruit un peu d'opportunités ? Mais ces expériences ont dû être extrêmement riche et t'ont permis justement dans la foulée de devenir le joueur que tu as été.
Alors prévu, non, c'est pas prévu, c'est arrivé comme ça. J'ai fait mes classes à Brive dans l'école de rugby jusqu'à l'équipe première en 99, les premiers matchs. Mais ensuite, je rentrais plus dans le plan du staff briviste à l'époque et
ils ont eu le nez creux.
J'ai eu quelques opportunités avec quelques clubs de top 14, enfin de top 16 à l'époque, mais c'était pour être en espoir et peut-être potentiellement faire quelques matchs en première. Et, Et mon père m'a conseillé d'aller faire une saison, parce que j'avais 20 ans, 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus à l'époque.
J'ai regardé.
19 ans à l'époque. Oui, c'était l'année de mes 20 ans.
Tu as 20 ans en Angleterre.
Voilà. Et il m'a conseillé d'aller faire une année en Fédéral 1 pour pouvoir m'aguerrir mentalement et physiquement plutôt que de on va dire, stagner, entre guillemets, en espoir, en espérant aller gratter une ou deux titularisations en équipe première. Et là, j'ai fait le choix de partir au PUC, Paris Université Club, qui n'a rien de parisien d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a que des provinciaux et un état d'esprit qui est juste remarquable dans toute l'histoire de ce club. Donc, je me suis fait une saison, on s'est coltiné la poule. En plus, on avait les clubs de l'Est, Oyonnax à l'époque, Mâcon, Saint-Claude. C'était vraiment, vraiment solide et ça m'a permis de m'aguerrir parce que je suis sorti de mon petit cocon familial. La ville de province, Brive, découvrir Paris à 19 ans. Mes parents m'ont laissé, m'ont amené à Paris, m'ont laissé. Je me rappelle, ça avait été un moment difficile à vivre sur l'instant. Mais moi,
t'habitais où à Paris?
J'habitais Gare de Lyon, rue de Charenton. D'accord. Précisément.
D'accord.
Donc ça m'a permis de me construire en tant que rugbyman, mais en tant qu'homme aussi, de partir tôt de chez moi à la capitale, quoi.
Et Biarritz, on le sait, c'est le club qui a fait ta carrière, en tout cas en tant que pro, on l'a dit, après Gloucester. 12 ans sous les couleurs biarrottes, un palmarès incroyable, hein, je l'ai dit, un titre de champion de la petite coupe d'Europe en 2012 avec justement, c'était l'apogée, je dirais, en fait, c'était aussi la fin d'une génération, mais il y a deux titres aussi, 2005 2006. Qu'est-ce qui reste de toutes ces années? On sait que tu l'as parlé, hein, le groupe, on pourrait tous les citer, comme moi, je pourrais tous citer les mecs avec qui j'ai joué à Paris, parce qu'on a vécu une génération incroyable. Les Trailles, les Thions, les Betsen, Arignor Doki, je mettrais le Push aussi, Perlong, Julien, voilà, vous aviez une génération aussi incroyable. J'en passe. Qu'est-ce qu'on retient aussi de tout ça? Est-ce que vous voyez encore? Est-ce qu'il y a encore cette. Chacun prend ses chemins, mais on sait quand même que Biarritz, c'est aussi un petit village, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont là-bas. Est-ce qu'il y a encore des rapports? Comment on entretient aussi? On en a déjà parlé en off tous les deux, je me souviens, il y a quelques semaines quand on s'est vu pour Domi. Comment on entretient? Et c'est vrai, quand la vie aussi, chacun vit sa vie, comment on entretient aussi ces amitiés qui ont été hyper fortes sur le terrain, notamment avec des titres incroyables?
Comment on l'entretient? C'est vrai, comme tu l'as dit, on a tous eu du mal à quitter le Biarritz et le Pays Basque. C'est à y vivre. C'est quand même très agréable. On est, voilà, Jérôme habite à quelques kilomètres de chez moi, Emmanuel aussi, Damien Traille, Benoît Auguste, Julien Perrelong. Donc, on ne se voit pas toutes les semaines, mais voilà, la proximité fait que de temps en temps, on se retrouve pour un café, on entretient tout ça, on a toujours plaisir, même si je regrette toujours de ne pas pouvoir se voir un peu plus et aussi de parler de ses vulnérabilités parce que l'après-carrière, comme on l'a dit tout à l'heure, est difficile, mais nos liens qui ont été créés sur le terrain, forcément, on sait très bien tous que si un jour il y en a un qui est dans la difficulté, on sera tous là pour l'aider, quoi, c'est clair et net, c'est déjà beaucoup.
Dimitri, on parle de Biarritz, on va forcément parler un peu du Stade français. Il y avait une petite rivalité à l'époque, on va revenir sur l'année 2005, année marquante, hein, d'abord en Coupe d'Europe, une défaite pour le BO après 72 minutes d'arrêt de jeu, avec cet essai de Filou, de Christophe Dominici, et puis la finale du top 16, retrouvaille, le Biarritz Olympique face au Stade français. Raconte-nous un petit peu comment vous aviez préparé votre revanche, parce que je me rappelle quand même de ce début de match, cette touche un peu cafouillée, et bim, bam, boum, c'était parti. Et je crois que vous aviez, non pas préparé cette bagarre, mais notamment au soir de la finale, il avait préparé, bon, enfin on va demander à Dimitri, mais au soir du match perdu en Coupe d'Europe, je crois qu'il y avait une petite réunion où c'est peut-être ce soir-là que cette finale s'était gagnée, non?
Ouais, tu sais, bon, déjà, quand tu joues une finale, la motivation est toute trouvée, tu vas chercher le Graal et t'attends qu'une chose, c'est de monter ces marches du Stade de France, d'aller chercher le bouclier. Donc, la motivation était là. Après, on sait très bien, le Stade français à l'époque était la meilleure équipe avec le Stade toulousain. Nous, il y avait Bourgoin aussi. Donc, il y avait pas mal de grosses équipes, mais le Stade français faisait partie des grosses écuries. Bien évidemment, cette demi-finale perdue au Parc des Princes. On l'a eu en travers. Déjà, je pense que c'était envers nous-mêmes, hein, parce qu'on a mal géré les derniers instants de cette rencontre. Domi marque cet essai extraordinaire, mais c'était mérité aussi quelque part parce qu'il a mieux fini ce match. Il y avait eu des gestes quand même qui étaient un peu rugueux à la limite. Et comme je te disais, il a fallu chercher des prétextes aussi pour se motiver encore plus. Alors bien évidemment, on ne va pas se la faire à l'envers et ça, toutes les équipes. D'ailleurs, le premier match de championnat suite à cette finale, on peut en parler aussi. Ils étaient venus nous battre.
On appellera Mathieu Blin et Benoît Auguste.
Voilà, avec des intentions de faire mal. J'étais capitaine ce jour-là, Domi aussi. À un moment donné, je suis allé le voir en lui disant, bon, c'est bon, on a compris, vous êtes venu pour ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? On continue encore ou on arrête? Il me dit, non, c'est bon, là, c'est fini. Bon, finalement, ils avaient gagné. Ils n'avaient pas récupéré le Brennus ce jour-là, mais ils avaient gagné pour le premier match. Donc, pour revenir à la finale, oui, on s'était préparé, on était revanchards envers nous-mêmes, envers eux. Il y avait eu des gestes, mais comme nous aussi, on était une équipe aussi agressive. On avait dit, ben, si la première touche, Bibi passe encore le bras pour empêcher le sauteur ou le lifter de bien se dérouler la touche, ben, il va falloir y aller, quoi, hein, Stade de France ou pas Stade de France, finale ou pas finale, c'est parti, quoi. Donc, c'était la source de motivation supplémentaire. Il y avait eu un supplément d'âme dans les derniers instants, dans les prolongations. Il me semble qu'on était quand même mieux mentalement, physiquement. Et c'est peut-être là qu'on a réussi à l'épuiser, ce qu'on avait préparé durant toute la semaine. Hein.
Oui, je pense. En plus, on sortait d'une finale perdue contre Toulouse.
Déjà après prolongation, Raph.
Après prolongation, ouais, carrément. Et c'est vrai que ce match, cette demi-finale de Coupe d'Europe gagnée dans les arrêts de jeu, la 89e quand même, tu la gagnes. Je pense que c'est d'ailleurs ce jour-là où les arbitres internationaux ont décidé d'arrêter les matchs à la 80e parce que c'était non pas une imposture, hein, c'était pas volé comme le disait Dimitri, mais bon, pour nous c'était un moment hyper fort. Dimitri, je voulais revenir moi sur ta carrière internationale. Comme je disais dans le portrait, on se souvient des matchs contre l'Angleterre et puis voilà, enfin tous les exploits que tu as pu vivre avec cette équipe de France. Et derrière, il y a cette finale en 2011 perdue contre les Blacks. Est-ce que c'est l'apogée de ta carrière? Et je vais pas dire on est dans l'intimité parce que tu connais le monde des médias et je vais pas te retourner le cerveau en disant on est contre nous, pas du tout. Mais il s'est passé quelque chose là. Est-ce que c'est aussi cette prise de pouvoir que les joueurs ont eue? Qu'il est nécessaire d'avoir aussi ce supplément d'âme dont tu parlais, que les joueurs aussi ont eu lors de cette demi-finale en 99. On sait que Skrela avait été mis un petit peu de côté, mais il y avait du caractère dans cette équipe en 2011. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce moment particulier pour toi et puis pour vous aussi, malgré la défaite?
Bon, déjà, c'était un moment très, très intense. On parlait de shot d'adrénaline tout à l'heure et des émotions fortes. Jouer une finale de Coupe du Monde à l'Eden Park d'Auckland face à la Nouvelle-Zélande, c'est un rêve de gosse, hein. C'est clairement un rêve de gosse, et quand tu le réalises, c'est juste impressionnant et très fort à vivre. Après, les gens ont découvert à ce moment-là que les joueurs prenaient le pouvoir, mais c'est dans toutes les équipes qui gagnent où ça se passe comme ça. Tu parlais de 99, ça s'est également déroulé de la sorte. Si on passe au foot, je n'étais pas dans l'équipe, mais en 98, tu as l'impression que les joueurs ont repris aussi. En 2006, lorsqu'ils ont atteint la finale de Coupe du Monde face à l'Italie, bon, avec tous les joueurs qu'il y avait sur le terrain, ce n'est pas une surprise si on dit que les joueurs ont pris le pouvoir, et c'est normal. Les meilleurs entraîneurs, ils sont sur le terrain, quoi. Ça, c'est clair et net. Il y a la hiérarchie du terrain. Bien entendu qu'il y a la hiérarchie de l'entraîneur. Et on n'a pas manqué de respect à Marc Lièvremont et son staff pendant la Coupe du Monde 2011. Bien au contraire, je pense que tout le monde était quand même content et heureux d'arriver en finale de Coupe du Monde et à échouer à un petit point. Donc, on a juste fait notre travail, si tu veux, de joueurs responsables qui sentaient que le début de la compétition était plus que moyen, où on se qualifie Riquera avec cette défaite face au Tonga. Et heureusement qu'ils n'ont pas pris le bonus, que nous, on a réussi à prendre le bonus défensif, sinon on n'était plus qualifiés. Mais ce n'est pas une surprise, hein, dans toutes les équipes. Et tu l'as connu au Stade français aussi, il y a des années où c'était en autogestion. C'est peut-être là, d'ailleurs, où vous avez été le meilleur, vous avez réussi à trouver cette force et cette énergie au sein de l'équipe. Donc, quand tu le vis, si tu veux, de l'intérieur, il n'y a rien d'anormal, quoi.
Dimitri, justement, tu soulignes le fait que les meilleurs entraîneurs sont les joueurs. Moi, je vais me souvenir, justement, après cette Coupe du Monde, discussion avec des confrères de presse écrite et de radio, où j'avais fait le pari que tu deviendrais entraîneur. Bon, une fois de plus, je me suis bien vautré. Pourquoi ne pas avoir tenté cette expérience? On avait le sentiment que tu avais tout pour réussir ce challenge.
Parce que j'avais un trop-plein, si tu veux, de quotidien rugby, 7-7, 24-24 de rugby, pensais que rugby. Et je sais, je sens que pour l'instant, ce n'est pas le moment de devenir entraîneur, même si voilà, ça reste ma passion, même si j'adore toujours, peut-être autant d'un entraîneur, décortiquer le jeu d'une équipe, l'aspect tactique, technique aussi. Mental, la préparation mentale d'une équipe, c'est quelque chose qui me passionne, mais voilà, j'ai pas passé mes diplômes, mais je me vois pas pour l'instant me relancer dans un quotidien rugby. Ce rôle de consultant me convient parfaitement. J'aime l'exercice, j'aime partager mon expérience, essayer d'être assez clairvoyant le plus possible à l'antenne. Donc voilà, faut jamais dire jamais. Pour l'instant, c'est pas dans mes options. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain sera fait, quoi.
Le dernier consultant de France Télévisions, il est devenu sélectionneur, hein, Dimitri.
Je
Allez. sais. Je sais.
Je dis ça, je dis rien.
Les deux derniers consultants, les deux
C'est vrai.
derniers, parce que Raph aussi. Donc on est les prochains entraîneurs avec Vincent Clerc, ouais, après la Coupe du Monde 2023.
Ah, c'est générationnel, vous arriverez au bon moment. Ouais, comme tu dis, tu étais consultant et tu es consultant. Tu étais consultant sur Bein et maintenant tu es sur France Télé. Comment tu t'y es préparé? Parce que dans l'inconscient collectif de beaucoup de supporters, c'est vrai, ouais, tu as beaucoup de joueurs qui passent à la télé, voilà, qui deviennent consultants. Après, c'est un vrai métier. Moi, ça fait 8 ans que je suis sur Eurosport. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'au début, mais ça demande une formation. Ça demande, comme tu dis, avoir une certaine appétence, comme le dit ce bon Arnaud Bordelais. Voilà, une appétence pour ce genre de métier aussi, d'avoir envie de partager sa passion. Comment ça t'est venu, toi, et comment tu t'es formé aussi? Est-ce qu'il y a pas une formation particulière, mais par rapport à la communication, par rapport à son image, comment t'es entré justement dans ce métier?
Écoute, c'est vrai que j'étais assez taiseux pendant ma carrière au niveau des médias parce que je préservais aussi mon équipe et les adversaires par peur de dévoiler certaines choses ou d'aller attiser un petit peu l'adversaire, donc lui laisser le moins possible de chances de nous battre en nous motivant sur certaines paroles. Donc j'étais assez lisse, c'est vrai, pendant ma carrière. C'était pas du tout prémédité. J'ai travaillé beaucoup, je travaille toujours beaucoup pour essayer d'aller chercher encore plus en profondeur. J'ai pris des cours de média training aussi, d'apprendre à parler devant une caméra à la fin de ma carrière. Enfin, pendant ma carrière d'ailleurs, j'étais encore en activité pour apprendre à parler, s'exprimer le mieux possible, le plus clair possible. Voilà, après, il y a la lecture, j'écoute beaucoup les consultants aussi, les autres consultants aussi, pour aller chercher le meilleur, parce qu'ils ont tous des aptitudes différentes et il y a toujours des choses à aller chercher parce qu'ils sont tous intéressants quelque part. Donc voilà, c'est un travail perpétuel, hein. C'est pas évident, c'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice qui me plaît de plus en plus. Et comme tu l'as dit, mais ça c'est valable pour tous les corps de métier, c'est que plus t'enchaînes et plus tu prends de l'expérience, plus tu es à l'aise. Mais il faut quand même se remettre en question parce que c'est pas évident.
Dimitri, tu as employé le mot taiseux pour qualifier tes relations avec la presse lorsque tu étais joueur. Bon, tu as flingué ma question suivante parce que justement, je voulais souligner le paradoxe qu'elle tient dans le sens où, effectivement, quand tu étais joueur, alors j'ai employé le mot réservé. Tu n'étais pas le meilleur client pour les journalistes à l'époque, même si on sentait qu'il y avait beaucoup de retenue, beaucoup de calcul pour pas, justement, comme tu l'as très bien expliqué, pas donner d'éléments éventuellement à l'adversaire pour se nourrir de ça pour le match à venir. Est-ce que c'est aussi une façon de te protéger toi, quelque part? En même temps, dans ma question, je tiens à souligner le gap qui sépare le joueur que tu étais face aux médias du consultant que tu es devenu, qui est un des tout meilleurs aujourd'hui, très honnêtement. On va pas se mentir, quand on regardait un peu les réseaux sociaux, même si ce n'est pas forcément le reflet de la vraie vie, là, je parle sous la responsabilité de Raph, mais sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ton duo que tu formais avec Rodolphe Pires a toujours été mis en avant, salué, loué et vraiment félicité pour nous faire partager ce jeu avec beaucoup de compétences et aussi avec beaucoup d'humour.
Ouais, c'était une forme de protection, c'est sûr. Pour répondre à ta question, c'était une forme de protection aussi parce que t'es pas prêt à subir ensuite les retours, donc t'en dis le moins possible, comme ça t'as moins de retours possibles quitte à rester un peu lisse, avoir une image de quelqu'un de réservé, ça me convenait aussi très bien, hein, mais le principal objectif de tout ça, c'était de préserver mes coéquipiers, mon équipe par rapport aux adversaires, parce que nous, on se nourrissait aussi bêtement, mais parfois, ça permet d'aller chercher un peu plus d'énergie sur certaines paroles des adversaires avant de te jouer, hein, se commencer, même si parfois c'est mal approprié, mais enfin, toujours est-il que parfois ça nous a permis d'aller chercher ce supplément d'âme. Donc il a fallu aussi déconstruire tout ça, parce que là, quand tu es consultant, alors à Bein, c'était un peu différent, parce que voilà, c'était la Coupe d'Europe, c'était pas le service public, là c'est notre ampleur, c'est l'équipe de France. Beaucoup plus de visibilité, donc tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Il faut être bien précis, il faut apporter aussi le côté instructif, parce que c'est le grand public. Il y a pas, il y a part des téléspectateurs regardent le rugby pendant le tournoi destination ou juste certains matchs de phase finale de Top 14 de la Coupe d'Europe. Donc il y a le grand public, donc ça change un petit peu le discours, mais ça reste toujours aussi passionnant pour moi, quoi. Et ça a été peut-être aussi finalement une thérapie pour pouvoir me m'ouvrir encore plus et m'émanciper encore plus.
La fameuse thérapie. j'aimerais aborder avec toi une thématique, moi, qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de sportifs qui s'impliquent dans des associations d'anciens et de joueurs aussi actuels. Je pense notamment à Maillot pour la vie. Toi, aujourd'hui, tu es un mec engagé, tu es président de l'association une balade pour Justine Hélou. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette vocation, mais comment on en vient justement à devenir parrain et président d'une association? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager, toi, et qu'est-ce que c'est aussi que cette association? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, une balade pour Justine Hélou, c'est une association qu'on a créée avec Christian Saramagna, qui est un ancien joueur des Verts de la grande époque. Parce que sa petite fille Lou et ma fille Justine sont atteintes de polyarthrite juvénile, donc c'est, pour résumer brièvement, de l'arthrose chez les enfants. Donc, on a créé cette association avec notamment des gens d'ici, Jean-Michel Larquet, Nathalie Tosia et d'autres belles âmes d'ici qui sont moins connues du grand public, mais qui nous aident beaucoup. Donc, on organise en fait des événements. Bon, là, malheureusement, elle est mise un peu en sommeil avec l'état actuel des choses en France. On organise des événements et l'argent qu'on gagne, ben, on le reverse à notamment la fondation Arthritis, qui est gérée par le groupe Clarins, pour développer encore plus les diagnostics de ces maladies et sur leur œuvrer aussi sur la recherche. Ça a déjà bien évolué ces 10 dernières années, mais on peut donner toujours encore plus et œuvrer encore plus pour apporter un peu de soutien à tous ces enfants qui souffrent en silence, quoi.
D'ailleurs, pour Dimitri, tu soulignes le fait que c'est difficile d'organiser des événements actuellement. Il y a un très beau site internet, hein, une balade pour Justine Hélou. Vous tapez ça sur Google. Pour ceux qui veulent aider l'association, n'hésitez pas. C'est possible directement via le site internet.
Et oui, et juste pour conclure sur cette thématique, ta fille, on en avait parlé justement il y a quelques semaines encore. Ta fille va mieux, on peut le dire. Donc il y a aussi de l'espoir de guérison pour cette maladie. Oui.
Ouais, bien sûr. Comme je te disais, les traitements ont beaucoup, beaucoup évolué ces 10 dernières années. Ça se stabilise. Mais ce sont des maladies invisibles, en fait. Ils souffrent en silence, comme les personnes âgées qui ont de l'arthrose. C'est pas visible pour certains, parce que pour d'autres, ça peut se voir. Il y a quelques déformations de certaines articulations, mais pour ma fille en particulier, ça va, ça se stabilise. Le traitement fait son effet. Mais bon, et après, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent en silence, c'est toujours très compliqué, ces maladies invisibles, entre guillemets, parce qu'ils souffrent en silence et sont habitués à la douleur, surtout.
Une balade pour Justine Hélou. Dimitri, dernière question, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que c'est le retour du public dans les stades pour se sentir un peu moins seul en tant que consultant? Est-ce que c'est des victoires de l'équipe de France? Et puis, pour toi, personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021?
Ouais, je crois que tu as tout dit. Déjà, que l'équipe de France continue à, à gagner, nous procurer des émotions, parce que des émotions fortes, on n'en vit pas beaucoup en ce moment, dans ce contexte et ce climat anxiogène qui nous retranche un peu sur nous-mêmes. Donc, déjà, j'ai la chance et le privilège de pouvoir aller dans les stades et commenter les matchs, même s'ils sont à huis clos, et avoir quelques émotions et en partager aussi. Mais c'est évident que le public manque. J'ai ressenti, et avec Mathieu aussi, et l'équipe, avant le match, ils ont mis les hymnes irlandais. Et en fait, ils avaient mis, avec le son du public, qu'ils avaient enregistré il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on était un peu surpris d'avoir la chair de poule, parce que ça manque, quoi. Le contact avec les gens manque, cette ferveur dans les stades manque. Et il nous tarde vraiment de retrouver ça. Ouais.
Et une dernière question, mais ça c'est personnel pour savoir ce que tu vas dire en fait. C'est quoi ton meilleur souvenir de rugby? Juste savoir si ton meilleur souvenir ce serait une confrontation face au Stade français, notamment dans ces belles années, ou pas.
C'est dur ce que tu me demandes, Raph. Ouais, bien sûr, le
Non, mais il y
Stade
en a, oui, je sais que
français.
c'est dur. Après, ça peut être un panel de souvenirs, mais si on avait un en
Finale de l'Eden
particulier.
Park doit avoir une place particulière quand même.
Ouais, forcément, forcément. Mais si tu veux, dans l'échelle émotionnelle à l'intérieur, tu sais, quand tu mets pour la première fois le maillot d'un club, mais tu ressens de fortes émotions. La première fois que tu mets le maillot de l'équipe de France, pareil. La première fois que tu gagnes un bouclier de Brennus, les premières fois sont toujours fortes émotionnellement. Après, oui, dans l'échelle, on va dire la finale de la Coupe du Monde en 2011 à l'Eden Park à Auckland, parce que comme je disais tout à l'heure, c'était tout simplement un rêve de gosse de jouer une finale dans ce stade noir de monde au sens propre comme au sens figuré. C'était vraiment très impressionnant et oui, j'en garde, oui, ça fait partie du top 3, on va dire, des plus beaux souvenirs.
J'en suis ravi. Pour moi, vu que personne ne me pose la question, mais j'ai envie de le dire, c'était cette demi-finale de Coupe d'Europe au Parc des Princes, face à Biarritz. Non pas parce, je ne le dis pas parce que tu es face à moi, mais en fait, ce qui était quand même très, très fort au Stade français, c'est que j'ai commencé en 99 pro. Il y avait 2000 personnes dans les tribunes et de voir que Max a pu, en 5, 6, 7 ans, remplir ce Parc des Princes, au-delà de la confrontation entre le Stade français et Biarritz. Ce que tu disais, oui, il y avait les confrontations Stade français, Stade toulousain qui étaient les plus fortes, mais je pense que Biarritz faisait partie justement du top 3 voilà, de ces équipes qui survolaient un petit peu le top 14 d'ailleurs, parce que 2004-2005, c'était l'arrivée du top 14, si je ne m'abuse, non, je me trompe.
Non, je crois que
Non,
c'était l'année d'après.
c'est l'année d'après.
Ouais.
2005, c'est la dernière année du top 16.
Ce qui veut dire que je n'ai jamais joué en top 14. J'étais persuadé, putain, d'avoir réussi à faire partie un peu du côté un peu moderne du rugby. Les gars, vous venez de me tirer une balle dans le pied. En bref, voilà. Tout ça pour dire que ce moment était super. Merci beaucoup, Arnaud et Dimitri. Merci, Dimitri, d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous, les gars. C'était un plaisir.
Ouais, merci Dimitri. Moi, ça m'a permis de mieux cerner le personnage parce que, il y a eu un certain nombre d'interviews où en sortant de l'interview, je me disais, bah merde, il a encore rien dit. Et franchement, quand je voyais le consultant qu'il était devenu et la personne que je croisais parfois dans une soirée rugby ou ailleurs, je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait. On en fera pour ceux qui auront eu la chance d'écouter ce podcast, ils en sauront davantage et ils comprendront comment on construit aussi son après-carrière. Et je trouve ça assez remarquable.
Et comme on dit, tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Moi, j'ai la chance, voilà, et le privilège de pouvoir partager en off, bien sûr, des moments avec Dimitri sur des grandes discussions, comme je disais dans le portrait. Donc, une fois de plus, je sais que je suis privilégié de ces moments. Donc, j'étais ravi de t'avoir j'allais
Moi
dire dans
aussi,
mon
les gars.
émission, mais
Moi
dans notre
aussi.
émission. C'était cool. Vraiment, vraiment.
C'est cool.
Merci Dimitri, merci Arnaud. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, très bon week-end rugby. Éteignez votre GSM. Regardez par la fenêtre. La vie est belle. À la semaine prochaine. Salut.